partager la parole de Dieu, l'introduire par un texte dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 13, et on va lire ensemble les 11 premiers versets. Le livre de Jérémie, le chapitre 13, et dès le premier verset, nous lisons ceci. « Ainsi m'a parlé l'Éternel, va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. » J'achetai la ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. » J'allais, et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit « Lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonnée d'y cacher. » J'allais vers l'Euphrate, je fouillais, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée, mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien, car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. Amen. » Mais nous, on veut écouter. Nous, on veut disposer nos cœurs et prendre en considération la parole du Seigneur. Ce n'est pas la première fois que Dieu demande à son prophète Jérémie de faire une démarche étonnante. Vous savez de quelle façon un jour Dieu va envoyer Jérémie dans l'atelier d'un potier, et vous savez ce qu'il observe. Il voit l'artisan travailler une masse d'argile pour faire un vase, puis le vase ne prend pas, alors il recommence, et Dieu donne l'explication, la portée spirituelle. Alors ici, ce n'est pas chez un potier que Dieu envoie son serviteur, mais chez un négociant, un marchand de textiles, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, et Dieu lui dit « Va, achète-toi une ceinture de lin ». Et d'une manière très très claire, Dieu donne la portée symbolique de cette ceinture en disant que cette ceinture représente tout simplement son peuple. Alors ici, dans un premier degré, son peuple d'Israël, historiquement, mais vous savez que la parole de Dieu est là aussi des portées à plusieurs degrés, à plusieurs niveaux, et cette ceinture, elle représente aussi fort bien le peuple racheté de Dieu, l'Église. L'Église, vous et moi, nous en faisons partie. Et je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions réfléchir sur quelques enseignements spirituels que nous rapporte cette image d'une ceinture. Une ceinture de lin. Et vous savez que le lin, dans l'Écriture, nous parle de la justice, des œuvres justes. J'ai envie de dire que chacun, pour notre part, nous sommes une fibre de lin tissée les uns avec les autres pour former une ceinture. Et que cette ceinture, Dieu, au prix fort, se l'est acquise. Nous sommes comme une ceinture acquise. L'apôtre Pierre dira que ce n'est pas par de l'argent, par de l'or, mais par le précieux sang de Jésus que nous avons été rachetés. Frères et sœurs, je veux me souvenir en ce début d'année que je suis un racheté du Seigneur. Un prix a été payé. Nous ne sommes pas simplement une association pour le législateur français, oui, mais nous sommes bien plus que cela. Nous sommes un peuple pour lequel Dieu a payé le prix fort en offrant son Fils Jésus. Le prix nécessaire à ce que nous soyons aujourd'hui sauvés, c'est la croix du calvaire. Ce sont les épines qui ont été profondément plantées dans le front du Rédempteur. Ce sont les clous qui ont percé ses mains. C'est son précieux sang qu'il a volontairement répandu. Jésus-Christ crucifié, mais aussi, gloire à Dieu, Jésus-Christ ressuscité, élevé, intronisé à la droite de la majesté divine, il a fallu ceci pour que nous soyons ensemble cette ceinture précieuse dont il faut prendre soin. Moi, je suis un fils de tailleur. D'ailleurs, chez les Arméniens, à l'époque, c'était soit tailleur, soit coiffeur, soit cordonnier, pour les plus réfléchis, bijoutier. Et papa était tailleur, et je me souviens très bien, je n'avais que 10 ans, 11 ans, 12 ans, et avec mes deux frangines, il y avait parfois un travail qu'il nous déléguait. Il faisait des costumes sur mesure pour hommes, et il nous disait, venez les enfants, il faut que je livre 3 costumes pour demain, et il faut m'aider à défaufiler, parce qu'il y avait le faufilage. Aujourd'hui, non. Mais à l'époque, on faisait les choses dans les règles de l'art. Et parfois, il nous prévenait en disant, attention, ce tissu-là, il est fragile. Si vous tirez trop fort, vous allez abîmer les fibres. Et c'est irrécupérable. Alors, on faisait attention. J'ai envie de dire que l'Église est là aussi sur un certain aspect, sa fragilité. J'aimerais que nous puissions prendre conscience de la sagesse, de la délicatesse, du bon dosage avec lesquels nous devons, eh bien, gérer la vie d'Église. C'est tellement vite fait d'aller trop vite, trop fort, et d'abîmer une fibre. C'est tellement vite fait par précipitation, par négligence, d'accrocher un angle et d'effilocher une fibre. Je crois, frères et sœurs, que après nous avoir rachetés au prix fort, Dieu multiplie sa bonté, sa délicatesse, sa patience, sa sagesse, afin que son Église, cette ceinture précieuse, soit maintenue en bon état. Et moi, je prie pour que l'Église d'Aubagne soit une Église en bon état. Amen. Est-ce qu'il y a une fibre parmi nous qui est un peu effilochée? Est-ce que dans ta vie communautaire, tu as été blessé ici, déçu par là, agressé peut-être, intentionnellement ou involontairement, mais le résultat est là. On a besoin de tous les soins dont Dieu est capable pour réparer ce qui est abîmé, pour consolider, pour entretenir la qualité, l'éclat, la rigidité, la force de cette ceinture. Frères et sœurs, laissons le Saint-Esprit nous unir les uns aux autres étroitement, que nous soyons tissés entre nous là. Amen. Qu'il y ait quelque chose de divin qui nous lie. C'est plus que l'affinité de caractère ou l'empathie d'opinion. C'est plus qu'une concordance intellectuelle. C'est un miracle. La communion fraternelle, c'est un miracle. Que quelqu'un dise amen. C'est un miracle. Regardez, bon, on n'est pas très très nombreux là, mais je sais pas. Je sais pas combien de nationalités il y a ici parmi nous là ce soir. Les vrais Français doivent pas être très très nombreux ici, hein. Ah, Lambert un peu, ouais. Ça. Mais entre Amouche et Tcherkéchian, Scorson et Guerrero, et puis on pourrait continuer. Mais c'est un miracle que nous puissions former un seul corps. Le peuple de Dieu, c'est un miracle. Les clivages culturels, les différences de vécu, de passé, d'histoire, d'éducation, tout cela laisse la place à un miracle de Dieu qui fait que nous formons ensemble une ceinture qu'il a payée au prix fort et qu'il place autour de ses reins comme on prend une ceinture et qu'on la place au rein d'un homme, ainsi, va dire le Seigneur, ainsi je m'étais attaché, mon peuple. C'est cette image que j'aimerais vous présenter, oh que le Saint-Esprit vienne graver cette image au profond de notre conscience, Dieu et autour de ses reins, son Église. Jésus et autour de ses reins, cette ceinture merveilleuse qui est l'Église. Ceci me parle de notre attachement au Seigneur. Le drame qui s'est produit dans ce récit, c'est qu'à un moment donné, la ceinture s'est détachée. Elle s'est détachée, puis elle s'est retrouvée cachée dans une anfractuosité d'un rocher au bord du fleuve l'Euphrate. Et c'est un drame fatal, puisque quelques jours après, le prophète va récupérer la ceinture. Elle était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. L'Euphrate, vous savez que c'est sur les rives de l'Euphrate que se trouve Babylone. Et vous savez ce que Babylone représente dans la symbolique biblique, c'est l'humanisme avec son mélange religioso-philosophico-politico, en fait tout ce qui est en haut là, hein, c'est un mélange, c'est Babylone, c'est l'homme, c'est l'humanisme, voyez-vous. Et nous vivons dans une société où la mentalité de Babylone, on peut dire, règne autour de nous. Et ce qui a malheureusement dégradé la qualité de cette ceinture, sans faire de bruit, hein. Mais là, insensiblement, petit à petit, c'est l'air insalubre, humide, moite de l'Euphrate qui s'est attaqué à chaque fibre. Et peu à peu, Eh bien, cette ceinture était tellement, tellement en décrépitude qu'elle n'était plus bonne à rien. Je crois que ce constat, comme on peut citer d'autres exemples, sont faits pour nous maintenir, nous, dans une vigilance. Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, je veux tout faire pour éviter de subir cette dégradation silencieuse, insensible, progressive, mais redoutable, de la mentalité de la société d'aujourd'hui, mais je veux rester attaché autour de tes reins. Amen. Plaise à Dieu que notre chère Église reste attachée avec une joie renouvelée, une conviction réaffirmée, un zèle renforcé à la personne de Jésus-Christ. L'Église attachée autour des reins du Seigneur. Je voudrais, frères et sœurs, mentionner trois situations dans lesquelles on se saignait les reins. À l'époque des Juifs, lorsqu'on voulait entreprendre une longue marche, alors on retroussait, on relevait les ourlets de la tunique et on mettait la ceinture pour libérer les chevilles et les genoux et pour permettre une marche efficace. La ceinture autour des reins d'un Dieu qui est en marche. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Les chroniqueurs, les commentateurs des plateaux télévisés peuvent dire ce qu'ils veulent. Dieu est en marche. Jésus est en marche. L'œuvre de Dieu est en marche. Et l'Église est invitée à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur marche et moi, je marche avec le Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible nous parle d'un personnage de l'Ancien Testament. À l'âge de 65 ans, il s'est produit un événement essentiel dans sa vie. Cet événement coïncide avec la naissance de son fils. Hénoc, à l'âge de 65 ans, accueille un fils. Et c'est plus que la joie d'un père, mais c'est la naissance de la foi. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est par la foi qu'Hénoc, à 65 ans, a décidé de marcher avec Dieu pendant 30 jours. C'est ça ? Vous dormez ? Pendant 300 ans. Pendant 300 ans. Ce qui a caractérisé cet homme de foi, c'est qu'il a marché avec Dieu. Comme la ceinture était fermement installée, attachée autour des reins d'un homme, Hénoc s'est attaché à l'Éternel. Et il a marché avec le Seigneur pendant 300 ans. Oui, la foi, elle engendre de tels exploits. C'est long, 300 ans. Hein? Eh bien, la foi d'Hénoc, elle n'a pas vieilli, elle ne s'est pas usée, elle ne s'est pas découragée, elle ne s'est pas ternie. Malheureusement, je vous le dis, entre vous et moi, moi, il me faut moins de 300 ans pour avoir le découragement, quelquefois l'usure, quelquefois la tentation de baisser les bras. Et je sais que vous aussi. Oui ou non ? Il faut souvent pas grand-chose pour influer négativement sur le rayonnement conquérant de notre foi. Eh bien, que l'exemple d'Enoch t'encourage ce soir. Si cet homme, dans une génération de corruption indescriptible, d'apostasie incroyable, a pu marcher avec Dieu pendant 300 ans, tu vas marcher aussi. Oui ou non? Quelqu'un peut-être était à un doigt de ne pas venir à la réunion ce soir. Tellement tu étais mal fichu intérieurement. Quelqu'un peut-être se disait, non, ce soir non. Et puis bon, tu es quand même venu. Et tu as bien fait. Parce que lorsqu'un homme partait en voyage comme cela avec sa ceinture autour des reins, il mettait dans sa ceinture les ressources indispensables pour pourvoir aux besoins de son voyage. Il mettait des ressources. C'est ainsi que ton Seigneur a promis de te communiquer les ressources qui sont les siennes afin que tu continues ta marche victorieusement. Amen. Nous ne marchons pas avec Dieu en nous fiant à nos propres forces, mais il nous donne ses ressources. Et je prie pour que le Saint-Esprit vienne nous donner ses ressources ce soir. Gloire à Dieu. L'Église, elle est bénie parce que elle est appelée par son Seigneur à être sans cesse enrichie d'en haut des ressources divine. Un enfant de Dieu, le plus timide qu'il soit naturellement, le plus fragile, le plus influençable, le plus faible qu'il soit, dès lors qu'il est un enfant de Dieu, reçoit de son Dieu des ressources miraculeuses qui le rendent capable de marcher et de marcher encore et de marcher jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. Que ce soir, le Seigneur renouvelle tes forces. Amen. Que ce soir, le Saint-Esprit affûte ton zèle. Que ce soir, le Saint-Esprit multiplie ta motivation, ta consécration, ton enthousiasme, ta joie à le servir. Alléluia. L'Église est donc dépositaire des ressources du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, chaque fois que le piège de la notoriété et de la puissance politique a entraîné l'Église vers les ressources humaines, ça a contribué à son affaiblissement. Dans tous les pays où il y a au contraire une sorte de rejet de l'Église, pour ne pas dire de persécution de l'Église, c'est là que l'Église démontre une teneur, une qualité de foi extraordinaire. Alléluia. Des chrétiens chantaient des cantiques alors qu'on les amenait dans les arènes romaines. Et plus près de nous, de très nombreux exemples d'enfants de Dieu brimés, emprisonnés, frappés, torturés, parfois mis à mort, ont été jusqu'au bout rayonnant de la lumière d'en haut. C'est les ressources d'en haut qui permettront toujours à l'Église de marcher jusqu'au bout et de remplir sa mission. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque un Hébreu, à l'époque, voulait entreprendre une journée de travail, deuxième mise en situation, il se saignait les reins. Le paysan, qui, tôt le matin, se préparait à labourer un champ, bien, il relevait les ourlets de sa tunique, et il se saignait les reins, afin de ne pas être gêné dans son travail. La ceinture attachée autour des reins du Seigneur, c'est aussi un témoignage de l'appel de Dieu à travailler. Ah ben alors, on a du mal à digérer les papillotes, déjà il nous parle de travailler, eh bien oui. Et non seulement de travailler, mais la Bible nous dit de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu es une fibre tissée avec toutes les autres, et ensemble nous formons l'Église qui est appelé, qui est mandaté à une mission. L'Église doit travailler. C'est très bien payé, mais c'est pas payé en bas, ce sera payé en haut, dans le ciel. À travailler. Moi, j'aime lire l'apôtre Paul qui dit « J'ai travaillé plus que tous ». Ça ne veut pas dire que il était en agitation fébrile, non. Ça veut dire qu'il était porté et transporté par la consécration pour l'œuvre de Dieu. Et vous savez, il était tellement habité par la consécration de l'œuvre de Dieu que quand il ne trouvait pas la même consécration chez d'autres, il pleurait. « Je n'ai ici personne », va-t-il écrire. « Je n'ai ici personne qui prenne à cœur les intérêts de Jésus-Christ. Tous cherchent leurs propres intérêts. » Je prie pour que nous soyons des passionnés du service de Dieu. Amen. Tu voulais prendre du repos ? Dommage. Tu voulais te donner un temps sabbatique ? Tu voulais souffler un peu ? Ben, les temps sont tellement courts et ultimes qu'ils nous font entendre l'interpellation du Seigneur qui nous encourage à travailler au salut des perdus, à travailler à proclamer le nom de Jésus comme on le verra dimanche au culte, à être là pour soutenir une sœur affaiblie, pour encourager, pour exhorter, pour se rendre disponible. Tout ce que ta main trouve à faire, mais fais-le, et le soir, et il y en a quelques-uns, et j'en fais partie, on est au crépuscule, nous, hein, on arrive vers le soir, là, maintenant, hein. Mais le soir, ne laisse pas reposer ta main. Je crois que à toutes les saisons d'une existence terrestre, il y a une constante qui doit nous habiter, c'est la consécration, le travail pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur, j'en parlais il n'y a pas très longtemps ici, depuis 2000 ans, est dans une grande et glorieuse entreprise de construction. Je bâtirai mon église. Et le chantier suit son cours, hein. Il y a encore des pierres à ajouter, il y a encore du travail à faire. Et je prie pour que cette année 2024, nous puissions être une église au travail. Au travail. Voilà, je suis bien conscient de certaines choses. Je sais bien qu'il va falloir permettre au Seigneur de réparer certaines choses, peut-être de restaurer ici ou là, de renouveler la fraîcheur, le zèle, mais il le fait et il le fera encore, gloire à Dieu. Et avec ce renouvellement spirituel, nous voulons constituer une église qui travaille, gloire à Dieu, qui travaille pour que le nom de Jésus soit connu, qui travaille pour faire briller la lumière de l'Évangile. J'écoutais sur une émission d'information nationale, le journaliste interrogeait trois de ses invités sur le plateau. Et alors, vous, quelles sont vos trois raisons d'espérance pour 2024? Eh bien, c'est les JO, c'est l'inflation qui va arrêter, les taux qui vont baisser. Et vous? Ben moi, c'est encore personne n'a fait mention de la raison majeure qui est la nôtre d'espérer, à savoir que Dieu nous a envoyé un sauveur. Enlever Jésus, qui est le seul et véritable espoir de l'humanité, vous allez vous tourner vers des palliatifs, vers des vanités. Salomon disait « vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent ». Et nous sommes dans une société qui court derrière le vent, qui court derrière des vanités, mais au sein de laquelle Dieu a placé son Église pour que celle-ci travaille. Moi, j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui le reproche qui a été fait aux apôtres à Jérusalem. Oh, vous avez rempli Jérusalem du nom de Jésus. Moi, j'aimerais qu'on puisse nous faire ce reproche. Arrêtez! Mais vous ne parlez que de lui. Eh bien oui, parce qu'il n'y a que lui que Dieu a donné au monde pour lui venir en rescousse. Une église qui travaille, mon frère, ma sœur, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, parce que Dieu te donne ses ressources, dispose-toi à travailler avec une consécration renouvelée. Que le Saint-Esprit renouvelle ta consécration ce soir. Amen. Que servir Jésus ne soit pas un fardeau, mais une passion. Amen. Que Dieu renouvelle ta soif de la Bible. Que Dieu te renouvelle dans ces moments délicieux de prière que tu as dans ta chambre. Tu le chantes, tu le pries, tu l'adores, le Saint-Esprit te visite, tu parles en langue, et là, dans des apartés merveilleux, eh bien, tu es restauré, tu es renouvelé, que Dieu soit béni. Amen. Et vous savez, le paysan en hébreu, juif, quand il partait comme ça avec sa ceinture pour travailler, alors si le voyageur mettait les ressources, le paysan, il mettait ses outils. Sa ceinture servait de support à ses outils. Il ne partait pas comme cela, mais il partait outillé. Il y a, dans le domaine spirituel, entre guillemets, des outils dont Dieu veut nous équiper. Parmi ces outils, je mentionnerai peut-être plus tard, aurons-nous l'occasion de voir le sujet plus profondément, les dons spirituels. Les dons spirituels font partie des outils que Dieu veut donner à son Église. Vous savez, le premier moyen que Dieu a utilisé pour toucher mon cœur d'adolescent, c'est un don spirituel. C'est un don spirituel. Premier culte, une mamie, qu'aujourd'hui encore, je ne connais pas, il y avait 500 chrétiens, a dévoilé publiquement mon mal-être, les questions intimes et secrètes que je me posais et auxquelles je n'avais pas de réponse. Mot pour mot, elle disait ces questions cachées de mon cœur. J'ai ressenti l'amour de Dieu. Je me suis mis à pleurer au premier culte. Et en sortant, j'ai dit à ma mère, dimanche prochain, on revient. Et ça fait plus de 52 ans. Un don spirituel. Une église où des dons spirituels s'expriment avec authenticité, avec précision, d'une manière efficace. Le Seigneur missionne son église, mais avant de la missionner, il l'équipe. Il l'équipe. Et je vous encourage, mes bien-aimés, à aspirer aux dons spirituels. La Bible nous y encourage. L'apôtre Paul dit, mais je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Aspirez aux dons les meilleurs. Eh bien, que notre Église puisse être cette Église au sein de laquelle, d'une façon équilibrée, authentiquement inspirée, les dons spirituels vont se manifester. Gloire à Dieu. Alors, si dimanche matin, tu sens dans ton cœur un bouillonnement, un message, une parole, une pensée qui t'envahit l'intérieur, eh bien, ouvre ta bouche et il a dit, je la remplirai. Libère ce don spirituel. Parce que tu ne sais pas si, à travers ce don spirituel, il n'y a pas une âme perdue qui va être touchée à salut. Que Dieu nous équipe. Alléluia. Et puis je terminerai. On chantera tout à l'heure. Hein? Voilà, un cantique. Et puis on aura un temps où ensemble on va présenter nos vies au Seigneur dans une consécration renouvelée. Juste une troisième situation où on trouve mention d'une ceinture. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. C'est dans le ciel. C'est Jean, lors de sa captivité sur l'île de Patmos, qui a la révélation, Apocalypse signifie révélation, et il a notamment la révélation de Jésus-Christ dans la gloire, avec une description époustouflante. Il utilise des images que nous connaissons pour décrire l'indescriptible. Et entre autres, il remarque qu'autour de la poitrine du Seigneur de gloire, il y a une ceinture d'or. La finalité glorieuse à laquelle le Christ réserve son Église, c'est de partager sa gloire dans le ciel au siècle des siècles. Nous sommes appelés à être sur la poitrine du Seigneur. D'ailleurs, Dieu le dit d'une certaine façon dans le texte de Jérémie, « Afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. » Vous vous rendez compte, nous sommes destinés, nous, Église de Jésus, à être la gloire de Christ. Son peuple, sa louange, son nom, sa gloire, gloire à Dieu. Amen. Donc, écoutez, moi, quand je comprends ça, je trouve tellement déplacé les mesquineries naturelles, les petites compétitions, les crispations intestines, les uns à l'égard des autres. Mais attends, frères et sœurs, nous sommes appelés à être la gloire de Christ dans le ciel. Amen. Vous vous imaginez, vous, entrer dans le ciel en vous chamaillant? Dites-moi, la révélation de la destinée à laquelle il nous appelle doit transformer dès ici-bas notre mentalité. Gloire à Dieu. Et que la parole agissante de Dieu et l'action du Saint-Esprit au profond de chacun d'entre nous, eh bien, nous débarrasse des reliquats d'expressions charnelles, humaines, inappropriées. Vous recevez, vous aussi, quand vous êtes sur un site, des pubs. Hein. Alors, vous supprimez la pub et ils vous interrogent, mais pourquoi vous supprimez indésirable, inapproprié, je vous dis, inapproprié. Bon, on met à la poubelle. Il y a tellement de choses encore qui, en moi comme en vous, sont inappropriées. Ça ne correspond pas à la glorieuse destinée à laquelle Dieu, dans son amour, nous appelle, nous qui sommes son peuple. Alors, que Dieu nous encourage. Amen. Et pourquoi ne pas démarrer cette nouvelle année avec plus que des résolutions? Parce que les résolutions, vous savez, ça dure 48 heures, vous le savez ça. Plus que... Non, mais des victoires de foi, des prises de position spirituelles, en disant, ce que j'ai été dans tel ou tel domaine, je ne vais plus l'être, parce que le Dieu auquel je suis attaché me donne les ressources et la capacité de ne plus être tributaire de ces expressions viles qui me rappellent le vieil homme ou la vieille femme, hein, mais je veux tendre vers le parfait. Nous sommes là, tous ensemble, destinés à être sur la poitrine du roi des rois. Gloire à Dieu. Amen. Ah oui, oui. La Bible me dit qu'un jour, Jésus fera paraître son Église avec fierté. Amen. Sans rides. Irréprochable. Sans tache. Sans souillure. Mais parfaitement conforme à son image. Ben moi, je veux avec vous former cette ceinture-là. Et je veux rester attaché. Amen. Avant de laisser la place à Jean-Philippe pour un cantique, et ensuite, un moment, tous ensemble, on va invoquer le Seigneur, j'aimerais vous